On est toujours dans l'inattendu, on enchaîne avec un deuxième sujet. Et notre deuxième invité du jour, on parle des rencontres Paul Ricoeur, c'est avec toi Marie.
Oui, les rencontres Paul Ricoeur, ce sont donc des rencontres philosophiques qui vont se tenir au Champ Libre jeudi et vendredi autour d'une thématique, la fragilité humaine. Un événement organisé par les Champs Libres et l'Université de Rennes 1 qui propose un programme varié avec de nombreux échanges, un temps de réflexion pluridisciplinaire. Et la personne à l'initiative de ces rencontres, c'est vous Jérôme Poré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Rennes 1 et auteur notamment de l'ouvrage « L'existence vive », 12 études sur la philosophie de Paul Ricoeur, paru en 2017. Paul Ricoeur est donc un philosophe rennais, je le précise, que vous connaissez bien. Pourquoi avoir donné son nom à ces rencontres ?
Je dois corriger un tout petit peu ce que vous disiez. C'est le président de l'Université de Rennes 1 qui a été à l'initiative de ces rencontres et qui en a passé commande à l'UFR de philosophie, dont je suis membre. Et voilà, après, je me suis chargé de mettre tout ça en œuvre. Et c'est lui qui a souhaité associer le nom de Paul Ricoeur à cet événement, au nom de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur qui a passé toute son enfance et son adolescence à Rennes, qui a été fait citoyen d'honneur de la ville par Edmond Hervé en 2004. Voilà, ce sont peut-être des raisons. Il y avait un lien particulier de Paul Ricoeur avec la ville de Rennes, sont peut-être des raisons d'y associer son nom. Mais il y a d'autres raisons plus profondes qui tiennent à la philosophie même de Paul Ricoeur.
Je l'évoquais, la thématique de cette saison, c'est la fragilité humaine. De quelle fragilité, et là j'emploie un pluriel peut-être, parle-t-on ?
Alors oui, je crois qu'il faut effectivement employer le pluriel. Je suis tenté de dire d'abord que ce thème de la fragilité s'impose par la sorte de contraste qu'elle implique avec la violence du monde. Celle qui se montre, nous pensons à la guerre d'Ukraine ou à d'autres tragédies du monde contemporain, mais aussi celle qui se cache sous divers masques, celui de la marchandise, celui de la concurrence, celui de la performance, pour ne pas parler des masques ironiques, si j'ose dire, de la bienveillance ou de la résilience, qui nous font croire finalement que tout n'est pas si grave dans une société qui apparaît finalement à la fois dure aux faibles et souriante comme une poupée Barbie. Alors oui, notre programme enfin, est organisé en trois grands volets correspondant à trois demi-journées. C'est un peu frustrant, mais voilà, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout faire. D'abord, nous parlerons de la fragilité de la vie humaine. Et donc, je dirais entre philosophie et médecine. Parce que quand nous parlons de la fragilité de la vie humaine, nous pensons d'abord au fait que l'homme est exposé à la maladie, à la vieillesse et à la mort. Bien, donc cette relation entre la philosophie et la médecine s'impose en premier lieu. Mais deuxième volet, la fragilité de l'humain en l'homme. C'est un point qui nous importe peut-être plus que d'autres qui apparaîtra d'autant plus important que l'on distinguera entre deux sens du mot humain. Il y a, je dirais, le sens descriptif et le sens prescriptif. Alors, le sens descriptif, eh bien, nous le mettons en application lorsque nous distinguons humain et non-humain. Le sens prescriptif, eh bien, lorsque nous écrions « c'est inhumain » ou, à l'inverse, « il faut se montrer humain ». Alors, à vrai dire, les deux sens ne peuvent pas être séparés. Mais je crois que la bonne entente du second suppose la bonne entente du premier. Suppose donc que nous ayons d'abord, que nous soyons prêts d'abord à reconnaître une spécificité humaine. C'est-à-dire que des traits essentiels distinguent un humain d'un poulet. Je le dis en souriant, mais en même temps parce que, vous le savez, une certaine utopie animaliste nous a rendus aveugles à la différence qui distingue le vivant humain, d'autres vivants, avec lesquels sans doute il entretient des relations qu'il doit penser, assumer, et il ne l'a souvent pas assez fait, mais qui n'empêche pas que bien des traits le distinguent des autres vivants. le simple fait qu'il s'interroge sur sa relation avec les autres espèces le montre. Donc, il est très important de dire que lorsqu'on reconnaît une spécificité humaine, on marque une différence, mais on ne suppose aucune supériorité. Et puis, troisième volet de notre programme, il concernera la fragilité des institutions humaines. Alors, il aurait fallu parler d'abord des institutions symboliques, la langue, la culture, enfin, tout ce qui constitue l'humanité de l'homme, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui nous fait, finalement ? Bon, l'histoire, la langue, la culture, les relations avec les autres, les grands et petits événements vécus depuis l'enfance. Bon, c'est tout cela qui fait notre humanité. Mais, parce qu'on ne peut pas tout dire, encore une fois, nous mettrons l'accent sur les institutions politiques, et plus particulièrement sur les institutions démocratiques. Car il y a une fragilité spécifique des institutions démocratiques qui en fait la valeur, qui en fait le prix, mais qui constitue évidemment pour nous une menace. Nous regardons du côté de Trump, nous regardons du côté de la montée des extrêmes droites en Europe même, et nous voyons bien qu'il y a une fragilité spécifique des institutions démocratiques. Elle vient sans doute de ce que la démocratie, c'est la définition qu'aimait en donner Ricoeur, est le seul système politique dans lequel tous les conflits sont ouverts. Alors, ce qui veut dire qu'il y a une vertu du conflit, pour autant qu'il ne dégénère pas en violence. Qu'il y a, comme il le disait, une conflictualité productive à laquelle nous tenons, qui contribue à l'émancipation des individus, mais qui n'empêche pas un devoir de protection des mêmes individus. Et je terminerai en disant que s'il y a une fragilité des institutions démocratiques, elle est d'autant plus problématique qu'il existe en démocratie ce qu'on pourrait appeler des institutions de la fragilité. Pensez à l'hôpital, pensez à la sécurité sociale, pensez à l'école d'une certaine façon. Et donc, nous penserons à la fois la fragilité des institutions et ces institutions de la fragilité auxquelles nous tenons tant, qui sont l'honneur de la démocratie, quand elle n'oublie pas de les servir.
Avant de poursuivre sur cette question des institutions politiques, je vous propose d'écouter un extrait.
Il faut plutôt se poser la question, est-ce que mes choix politiques ont des ressources de durée ? Est-ce que je reste enfermé justement dans ce que le pouvoir politique présent voudrait m'imposer comme vision, c'est-à-dire sa propre survie. Alors je pense que le citoyen doit penser plus loin que les gens au pouvoir, pour justement préserver le sens de du long terme.
On vient d'entendre un extrait de Paul Ricoeur dans une émission de 1997 de Jean-Christophe Camus. Vous le disiez, dans les rencontres de jeudi et vendredi, on ne parlera pas seulement de fragilité du corps, de maladie, mais également de fragilité politique, notamment dans nos institutions. Où se situent ces faiblesses aujourd'hui, selon vous, dans les institutions politiques ?
Je n'ai entendu qu'une partie de la déclaration de Paul Ricoeur pour des raisons d'ordre technique, mais ce n'est pas grave parce que ce que disait Paul Ricoeur, ce que j'en ai entendu, me fait penser à une autre de ses déclarations. Je ne sais pas si cela répond exactement à votre question, pour une part, j'espère. Il disait en effet les cités sont périssables, les cités humaines sont périssables, leur survie dépend de nous. Et je crois que la démocratie est précisément une cité dont la survie dépend essentiellement de l'engagement des citoyens eux-mêmes. Bon, j'ouvre une porte ouverte en disant cela. Mais si nous prenons cela au sérieux, eh bien cela montre l'importance, et c'était aussi le cas aux yeux de Paul Ricoeur, de la discussion publique. Et il se désolait souvent de ce que les citoyens de plus en plus déserte la discussion publique, pour mieux se plaindre ensuite eh bien, de tout ce qui était mis en œuvre dans leur dos, à leur insu, sans leur consentement. Alors, c'est une façon d'expliquer la fragilité des démocraties, c'est qu'elles reposent entièrement sur la volonté libre de leurs membres.
Toutes ces formes de fragilité, elles vous ont amené à inviter non seulement des philosophes, mais aussi des médecins, des psychologues, des responsables politiques, ainsi que des personnes qui viennent du théâtre, de la poésie. Pourquoi avoir voulu rassembler autant de profils différents ?
Bien, sur un thème comme celui de la fragilité, sur d'autres aussi, remarquez bien, le philosophe, contrairement à ce qu'il croit parfois, ne peut pas faire seul les questions et les réponses. Si la fragilité de la vie humaine signifie le fait que nous sommes exposés à la maladie, à la vieillesse et à la mort, le moins que l'on puisse faire est d'interroger ceux qui s'affrontent quotidiennement, de par le métier qui est le leur, à la chose même dont nous parlons, n'est-ce pas ? Bon, c'est-à-dire à la maladie, c'est pourquoi la première conférence traitera de l'épreuve de la maladie, mais il n'y a pas que la maladie organique, il y a aussi les maladies psychiques, d'où la deuxième conférence sur la possibilité de la folie à laquelle nous sommes exposés, n'est-ce pas ? Pour autant que nous soyons hommes et que nous ayons à assumer dans toutes les situations notre humanité. Et la violence du monde dont je parlais tout à l'heure peut nous amener à nous étonner d'ailleurs que nous ne tombions pas plus souvent dans la folie. Et bien, de la même façon, pour le deuxième volet qui concerne le sens de l'humain, nous ferons appel à un philosophe qui est aussi le président d'une association qui travaille dans le domaine de l'éducation populaire, qui, dans les banlieues de Strasbourg, va au-devant des jeunes en errance et leur propose des chantiers éducatifs. Et il se trouve que ce philosophe, Gilbert Vincent, pour ne nommer que lui, traitera du thème de l'hospitalité, n'est-ce pas ? Voilà, c'est parler de l'hospitalité en général sans essayer de comprendre la façon dont elle est mise en œuvre dans des situations pratiques, ça paraît évidemment un peu court. Hein. Le philosophe risque de rester dans ce cas-là l'homme des idées abstraites. Et puis, sur le troisième volet, nous aurons par exemple un entretien entre un philosophe, Olivier Mongin, ancien directeur de la revue Esprit, qui a écrit un livre sur la condition urbaine, donc c'est un théoricien, si vous voulez, de la démocratie, et en face de lui, Edmond Hervé, qui a quand même présidé plus de 30 ans durant aux destinées de notre ville, et en essayant, pendant tout ce temps, de n'exclure personne, et en particulier pas ceux que nous appelons ordinairement les plus fragiles. Alors, les artistes, puisqu'il y aura aussi une création théâtrale durant ces journées, eh bien, ils sont là parce que je dirais qu'ils sont les plus aptes à rendre sensible la fragilité humaine. Les mots du philosophe sont quand même toujours des mots concepts, donc des mots abstraits. Le verbe philosophique n'est pas très incarné, quoi. Bon, c'est le problème, c'est la difficulté inhérente à la discipline. Mais dès lors que le philosophe entre en relation avec ceux qui ont un verbe justement incarné, charnel, bon, c'est ces corps qui s'animent sur un plateau de théâtre, qui disent des textes, qui disent des phrases, mais qui sont aussi des corps agissants, des corps en mouvement. Eh bien voilà, je pense que le philosophe fait son boulot. Il pense qu'il ne peut pas tout dire, qu'il ne peut pas tout comprendre. Et c'est en relation avec d'autres disciplines, d'autres activités, d'autres pratiques de pensée, parce qu'il y a autant de pensée dans le théâtre que dans la philosophie, eh bien qu'il fait peut-être le mieux son travail. Et donc nous aurons Massimo Dine, je ne sais pas si nous avons le temps d'en parler, qui présentera ce spectacle dont le titre est « 40 minutes pour… »
« Pour être toujours debout ».«
Pour être toujours debout », voilà. Nous, ce qui nous a intéressé… Ce qui m'a intéressé en particulier, je le connaissais un petit peu avant, mais particulièrement cette création, c'est sa démarche. Alors, pleine d'humanité, vous voyez, dans tous les sens du terme, au sens le plus banal, mais aussi le plus plein du terme, il est allé pendant 3 ans à la rencontre de non pas seulement de sans domicile fixe, mais je dirais, de personnes en situation précaire, la plupart vivant dans des foyers, dans des caravanes, certains effectivement sans domicile fixe. Et il leur a demandé simplement s'ils souhaitaient raconter leur histoire. Et puis 12 ont accepté de raconter leur histoire et même de faire un bout de route ensemble avec lui ensuite, c'est-à-dire eh bien, de participer à cette création. Mais il fallait pour cela, même s'ils acceptaient de jouer sur scène leur propre rôle, il fallait une médiation. Sinon, on n'était pas dans l'art, on était dans le documentaire, on était voilà. Et donc, il a demandé à un poète de mettre en forme ces narrations initiales. Et donc, à un deuxième niveau de narration. Et c'est ce spectacle, cette réécriture des histoires racontées en première personne par ces personnes qui joueront leur propre rôle sur scène, c'est à cela que nous allons assister donc sur le plateau.
Et pour vous, qu'est-ce que le théâtre permet plus qu'une conférence en termes de philosophie, de réflexion ?
J'ajoute simplement sur le spectacle, le plus beau de l'histoire, c'est qu'au-delà de cette création particulière, Massimo Dine a proposé à ces personnes de continuer avec lui sur d'autres spectacles, c'est-à-dire de devenir comédien finalement. Vous voyez, pas de s'en servir pour les mettre ensuite sur la touche. Bien, j'ai déjà répondu d'une certaine façon, à la question précédente, c'est-à-dire que le philosophe est le premier, ou devrait être le premier, à reconnaître les limites du discours philosophique. Parce que le verbe philosophique, encore une fois, est peut-être trop peu incarné. Parce que le philosophe ne peut faire seul les questions et les réponses. Parce qu'il reçoit des questions qu'il élabore et dont il doit souvent confier la réponse à d'autres. Alors que ce soit le politique sur le terrain, l'artiste qui rend sensible au fond les concepts et qui permet du même coup de les mieux comprendre, ce ne sont que deux exemples, mais je crois que sans cette conscience qu'a le philosophe des limites de la discipline qu'il pratique, il ne fait pas son boulot de philosophe.
On va conclure sur ces mots alors. Merci Jérôme Poré. Je rappelle que les rencontres Paul Ricoeur se tiendront jeudi et vendredi à l'auditorium des Champs Libres. L'entrée est libre et gratuite et toutes les informations sont à retrouver sur le site des Champs Libres et sur c-lab.fr.
Dans la vie, il y a pas de problème avec les fatalités.